Radio Okapi. Journal présenté par Pascal Massirika.
Au sommaire de cette édition, la majorité présidentielle salue la désignation de Emmanuel Chadary comme dauphin du président Joseph Kabila et fustige les propos tenus par l'opposition à Kinshasa qu'elle qualifie de fuite en avant. L'opposition exige plus d'inclusivité et refuse l'usage de la machine à voter. 4 nouveaux cas confirmés et un malade guéri du virus d'Ebola à Beni au Nord Kivu. Bilan dressé par le ministère de la Santé publique sur la situation épidémiologique de cette maladie dans cette partie du pays. Madame, Messieurs, bonsoir. La majorité salue la décision du chef de l'État, Joseph Kabila, de se choisir un dauphin à la personne d'Emmanuel Chadary comme candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain au nom du FCC. Au cours d'un point de presse animé aujourd'hui à Kinshasa, le porte-parole de cette plateforme politique fait savoir que le choix du dauphin ne veut pas dire que le mandat du président de la République a pris fin. Pour Alain Atundu Liongo, Joseph Kabila continue son travail jusqu'à son dénouement constitutionnel. Toujours d'après lui, le choix de Ramazani Chadary ne signifie pas la proclamation de la victoire électorale du candidat du FCC pour négliger le processus électoral jusqu'à sa fin. Par ailleurs, réagissant à la déclaration commune de l'opposition sur les préalables devant garantir les élections transparentes, pacifiques et inclusives, la majorité présidentielle qualifie ces propos de fuite en avant des gens qui ne sont pas prêts à aller aux élections. Les propos d'Alain Atundu Liongo sont recueillis par Askin Zibiatairo.
On pourrait dire une fuite en avant. Ce sont des propos teintés de peur des gens qui ne se sont pas préparés aux élections. Le vrai démocrate, c'est celui qui œuvre pour que le processus électoral puisse aboutir à bonne fin, puisse se réaliser dans la cohésion, l'honnêteté, la bonne foi, le patriotisme et le nationalisme. La CENI tient à organiser les élections, les conditions constitutionnellement prévues qui font d'elle l'autorité compétente. Devant cette réalité, la majorité présidentielle ne peut que se plier à la légalité des institutions. À la majorité présidentielle, nous sommes prêts à aller aux élections avec ou sans la machine à voter, mais dans le respect de la légalité des compétences constitutionnelles de chacun.
De leur côté, les partis de l'opposition posent des préalables pour aller aux élections de décembre prochain. Déclaration faite à l'issue d'une réunion tenue hier lundi à la paroisse Notre-Dame de Fatima, ici à Kinshasa. D'autres précisions avec le porte-parole du MLC, Jean-Jacques Mamba, et joint par Jeff Ngoy.
Nous avons posé les préalables. Les préalables sont l'inclusivité, l'inclusivité, toutes les manœuvres dilatoires ou toutes les manœuvres malsaines qui visent à écarter certains candidats, notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba, Monsieur Moïse Katumbi, que toutes ces manœuvres-là soient arrêtées. Nous avons exclu du processus électoral la possibilité d'aller voter avec la machine, parce que la machine n'offre aucune garantie. Nous avons demandé à ce que les personnes sans empreinte qui avoisinent à peu près 1 million d'électeurs ne soient pas reprises dans le fichier définitif qui va nous amener aux élections. Nous avons demandé à ce que les mesures de décrispation contenues dans l'accord de la Constitution soient appliquées intégralement pour que nous ayons de vraies élections et que tout le monde puisse avoir sa chance de se représenter devant le peuple.
Vous ne croyez pas que ces préalables soulevaient risque de retarder la tenue des élections?
Non, parce qu'en réalité, lorsque vous voyez le calendrier, le dernier calendrier officiel que nous avons, en ce qui concerne la machine à voter, elle est exclue. Elle ne figure pas dans son calendrier. Donc nous sommes dans les délais. Il y a la possibilité d'imprimer des bulletins de vote papier pour que nous ayons les élections. Donc ça ne devrait pas normalement. Si on ne tient compte que du document officiel produit par la CENI, il n'y a aucune manœuvre dilatoire dans ce sens-là.
À noter que les leaders de l'opposition accélèrent des consultations en vue d'une candidature commune à l'élection présidentielle. Après la rencontre avec Vital Kamerhe et F. Bazaïba Massoudi, Félix Tshisekedi Tshilombo a échangé ici à Kinshasa avec Adolphe Mouzito sur la même thématique. À Beni, le chef d'antenne de la CENI fait état d'un faible pourcentage des femmes candidates aux élections programmées en décembre prochain en RDC. Deo Gracias Mbayahi parle de 16% pour cette ville. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
Nous avions commencé le 25 juillet jusqu'au 8 pour la réception et traitement des candidatures proprement dites. Nous avons ajouté les 5 jours de retrait, ajoute et substitution, donc jusqu'au 13. Donc du 25 au 13. Nous avons traité les dossiers pour 57 candidats. Dans les 57 candidats, nous avons 48 hommes, soit 84%, et 9 femmes, soit 16%. Pour les 9 femmes ici, les 16%, bien sûr, c'est trop peu. Qu'à cela ne tienne, le terrain pourra départager les 48 hommes par rapport aux 9 femmes. Pour l'instant, ce qui sera fait, c'est toujours la sensibilisation, la grande sensibilisation autour de la machine à voter et l'octroi des duplicata des cartes d'électeurs pour ceux qui ont perdu les cartes d'électeurs.
Yété du Lingala traduit en français « pas lui ou pas elle ». Tel est le mot-clé d'une campagne de sensibilisation qui a été ouverte lundi à Kinshasa par le mouvement citoyen INAF-RDC. Objectif visé, préparer les électeurs à voter utile le moment venu. Ben Brian Mbouy, le coordonnateur de ce mouvement citoyen, affirme que cette campagne de sensibilisation porte sur 6 critères négatifs qui doivent guider les électeurs au mois de décembre prochain. Santé à présent. 4 nouveaux cas confirmés et un malade guéri du virus Ebola à Beni au Nord Kivu. C'est le nouveau bilan dressé par le ministère de la Santé publique sur la situation épidémiologique de cette maladie dans la province du Nord Kivu. À Beni, une correspondance de Martial Papimoukeba.
Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère de la Santé annonce que 14 jours après la déclaration de la présence de la maladie à virus Ebola dans la région de Beni, au total, 57 cas ont été signalés dans la région, dont 30 confirmés. 5 nouveaux cas sont confirmés, dont 4 à Mabalako, tous des prestataires de soins du centre de santé de référence de Mangina dans le territoire de Beni, et un cas à Mandima dans la province de l'Ituri. Le ministère de la Santé précise que ce cas enregistré en Ituri est un homme qui avait été admis au centre de santé de référence de Mangina dans la province du Nord Kivu pour des problèmes cardiaques. Après avoir été traité, il est rentré dans son village dans la zone de santé de Mandima, située à environ 400 mètres du centre de référence de Mangina où il est décédé. La bonne nouvelle, par contre, le ministère de la Santé annonce que la première patiente guérie du centre de traitement Ebola de Beni est une fillette de 13 ans. Les experts psychosociaux du ministère de la Santé ont rendu visite aux membres de sa famille pour le préparer psychologiquement et faciliter sa réinsertion psychosociale. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Santé encore dans la province du Olomami, 41 cas de rougeole ont été documentés depuis le mois de juin dernier dans la zone de santé de Mukanga en territoire de Malembankoulou. Le médecin chef de la zone de santé affirme à Radio Okapi que la prise en charge des malades n'est pas correctement assurée depuis une semaine par manque de médicaments essentiels. Docteur Pierre Ngoy est joint par Madeleine Waila.
Il y a des échantillons qui ont été prélevés à la 24e semaine de l'année en cours et qui ont été envoyés à l'INLB qui sont revenus positifs. Et à partir de la 26e semaine, nous avons constaté la notification de cas dans les centres de Kiolo 2 qui est parti de là et nous avons organisé une riposte à Kiolo, à Mukubu 1 et à Mukubu 2, là où on a eu bien notifié des cas. Et les cas dans ces aides de santé ont simplement diminué, maintenant ce sont les autres aides de santé. La crise en fait, quand ça a commencé, comme on avait des médicaments au niveau du bureau central, nous avons commencé à constituer l'équipe que nous avons envoyée dans les aides de santé. Parce que là, nous n'avons pas encore enregistré un cas compliqué. Et la prise en charge se fait au niveau de chaque aide de santé, avec l'équipe qui était constituée au niveau du bureau central qu'on a envoyé dans les aides de santé. Et on vient maintenant à réduire le type de prise en charge dans la plupart des aides de santé. Malgré ça, les aides de santé se débrouillent pour contenir la propagation et aussi les dégâts.
4 personnes blessées gravement, dont 3 Congolais. Bilan d'un accrochage est survenu dimanche après-midi au village de Pouko entre des autochtones et des éleveurs Mbororo à Niangara, dans la province du Haut-Ouélé, à plus de 700 km au nord-est de Kisangani. L'administrateur du territoire affirme à Radio Okapi qu'une enquête est ouverte. Le récit d'Anselme Massoua.
Une dizaine de Congolais revenant d'un deuil, déclare le président de la nouvelle société civile du Congo Nyangara, se sont butés à une barrière érigée par les éleveurs Mbororo sur la route Naoué 2 dans la chefferie Manziga. Qualifiant les Congolais de tueurs de leurs bêtes, poursuit la même source, les éleveurs obligent les autochtones à rebrousser chemin. Face au refus d'obtempérer à cet ordre, la bagarre éclate. Les éleveurs munis de couteaux et de lances, dit-il, ont réussi à repousser les passants en blessant grièvement trois d'entre eux. Une lance a percé un des blessés au niveau de la cuisse. Les habitants du village Pouko, alertés, affirment mais bienvenus à Kumbano sont venus venger leurs frères blessés à l'aide des armes de chasse et des machettes. Bilan Mbororo grièvement blessé. La police est intervenue et a interpellé les responsables de ces deux parties qui présentement sont en garde à vue au sous-commissariat de la police de Manziga. L'administrateur du territoire, Héritier Masekini, qui confirme les faits et déclare qu'hier lundi, au terme d'une réunion extraordinaire, son comité de sécurité a ordonné le démantèlement dans l'immédiat de cette barrière sur la route Naouédé et l'ouverture d'une enquête. Kisangani, Anselme Massoua, Radio Okapi.
Et à Bukavu, les habitants du quartier Nkafu dans la commune de Kadutu dénoncent la montée de l'insécurité dans leur milieu. Plus de 10 familles ont été visitées en l'espace d'une semaine. Une personne tuée a été jetée au lac Kivu. Selon la société civile locale, beaucoup de biens ont été emportés par des bandits armés. Radio Okapi Bukavu, Emmanuel Elamajoua Kabidi.
Le rapport de la société civile de Nkafu revient sur les cas d'insécurité du 6 au 13 août dernier. 11 ménages sont attaqués, notamment par des bandits, faisant 3 blessés par balle. La paroisse catholique Saint-Vincent Palotti est attaquée et plusieurs biens emportés. Le corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années est découvert au port de la SNCC. Ces attaques, qui se déroulent entre 20h et minuit, ciblent plus les avenues Mwangaza, Michombero, Majengo, Bugabo, l'hôpital général et sur les tronçons routiers allant de la place de l'Indépendance à la brasserie. Dans l'ensemble des maisons visitées, les bandits emportent des sommes d'argent, des biens de valeur dont des vêtements, des appareils électroménagers sans laisser des instruments de musique comme baffles et mixeurs. Hier lundi, un présumé voleur surpris en flagrant délit a échappé belle au lynchage de la population qui voulait en finir avec lui. Il est présentement entre les mains de la police. Julien Amegabe, président de la société civile de Nkafu en commune de Kadutu, en appelle à la population de collaborer avec la police pour dénoncer les cachettes des bandits. Bukavu, Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Radio Kapi.
Au Nord Kivu voisin, le site minier de Rubaya est de nouveau opérationnel dans le territoire de Masisi, situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. C'est le gouverneur de province, Julien Paluku Kaongia, qui a rouvert ce site hier lundi après-midi, levant ainsi la mesure de suspension des activités minières 3 mois après la suspension décidée par la société minière de Bisunzu suite à un conflit qui l'opposait aux creuseurs artisanaux. Des détails avec vous, Bernard Denyangi.
Après 3 mois de suspension, la reprise des activités minières est un salut pour la population de Rubaya qui vit de cette activité dont elle tire son principal revenu, a dit le gouverneur du Nord Kivu. Des mesures de validation des sites de Rubaya et celles de traçabilité des minerais ont été aussi mises en place comme préalable pour cette réouverture, a-t-il dit Julien Paluku.
Ces sites viennent de passer de jaune en vert pour signifier que l'exploitation commence. Nous venons de recenser 1544 creuseurs. Nous annonçons également qu'il est formellement interdit aux éléments des forces armées de se retrouver dans les sites d'exploitation minière pour que nous ne soyons pas considérés comme les minéraux de sang ou des minéraux de conflit ou que notre armée continue à se mixer dans l'exploitation minière.
Pour rappel, la SMB avait suspendu ses activités sur le site de Rubaya le 3 mai 2018. Elle accusait la coopérative des exploitants miniers artisanaux de Masisi, Coopérama, d'entretenir l'insécurité et la fraude minière sur le site. Le protocole d'accord liant les deux parties depuis 2013 avait été aussi suspendu avant d'être renouvelé le 12 juin dernier. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Actualité Afrique Monde.
Commençons par le Burundi où un activiste des droits de l'homme a été condamné hier lundi à 5 ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir produit récemment des rapports sur les violations des droits de l'homme pour le compte d'une organisation interdite par le gouvernement, a-t-on appris ce mardi après-midi des sources concordantes. Cet activiste des droits de l'homme a été condamné par le tribunal des grandes instances de Bujumbura pour avoir publié des rapports sur les droits de l'homme alors que son organisation dénommée APRODE avait été rayé par le gouvernement central. Au Cameroun, l'International Crisis Group estime dans un nouveau rapport que même si le mouvement Boko Haram constitue ces jours-ci une menace, le groupe est affaibli. En l'espace de 2 ans, le nombre des victimes civiles et militaires de ce mouvement rebelle a baissé sensiblement de 40%. L'International Crisis Group estime que le gouvernement camerounais doit aujourd'hui relever 2 défis majeurs pour asseoir définitivement la paix et éviter l'enlisement de l'armée dans l'extrême nord du pays. À Madagascar, à moins de 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, la société civile déplore le manque de réglementation dans les financements des campagnes électorales des candidats. La nouvelle loi électorale malgache apporte des améliorations substantielles sur la transparence des fonds des campagnes électorales, mais pas de plafonnement dans le financement des campagnes électorales et elle autorise le financement par des fonds étrangers.